Chapitre 13. Oui, je suis sorti, on m'a élargi lundi. La dernière fois que tu es venu me voir, c'était en décembre, je crois. Tous les mois se ressemblent dans leur sacrée boîte. Un peu plus froid, un peu plus chaud, on y fait même plus attention. Il s'interrompit et son fils pensa « Ne plus faire attention aux saisons, mon Dieu !»« Eh bien, cette fois-là, reprit Jules Brunel, j'ai cru que tu me demanderais la date. Tu ne me l'as pas demandé. Je me suis dit d'abord, il s'en fiche. Puis j'ai eu une idée. Si je faisais une surprise à mon gosse, que je me suis pensé. Et j'ai demandé au directeur de ne pas te prévenir. Rapport à ses examens, que j'ai dit. Si mon fils savait que je vais sortir, il voudrait s'occuper de moi, ça lui donnerait des distractions. Seulement, moi, j'ai voulu savoir la date. Un cœur de père, c'est différent. Quand j'ai su que ça commençait lundi, ce cirque, ah, ma foi, j'ai été content. J'aurais pu assister comme tout le monde. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais j'ai pensé, non, le fils me verrait dans le public, au milieu d'une réponse, ça pourrait la lui couper des fois. Alors, je suis allé ici et là, manger la friture à mariner, boire un verre de vin blanc chez la mère Michel, histoire de voir si je sais encore me conduire. Du reste, pas question de broncher. Je suis encore sous surveillance. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. J'ai de l'argent, j'ai des protections, tu feras une visite avec moi tout à l'heure, c'est arrangé. Il allait, verbeux et suffisant, mais inquiet, comme s'il cherchait du coin de l'œil le gardien qui pourrait le trouver en faute. Par instinct, lui et Donna avaient quitté la rue large et ils enfilaient des ruelles pavées de cailloux pointus. Ils passaient sous des voûtes, ils descendaient des marches, s'orientant toujours néanmoins vers l'est de la ville, vers le joli faubourg de jardins et de villas qui avoisine le lac. Donna ne disait pas grand-chose. Sa joie avait disparu assurément, mais il lui restait au fond de l'âme une sécurité. Son diplôme était gagné, la première porte de la carrière franchie. Et si la gloire du retour joyeuse et triomphale lui était ravie, il en prenait son parti. « La fanfreluche, ce n'est pas pour moi, » se disait-il. « Où allons-nous » demanda-t-il enfin, voyant son père s'arrêter à l'entrée d'une petite rue transversale que bordaient des grilles de jardin, des lilas et des platanes de distance en distance. « Je te l'ai dit, nous faisons une visite. Jette un coup d'œil sur moi. Correct, la cravate à sa place. Dans le temps, ma femme me disait « Mire-toi dans mes yeux ». « Ah, la pauvre Rose, elle aurait du plaisir d'être avec nous aujourd'hui. » Donna considérait son père, qu'il n'avait, à vrai dire, pas encore bien regardé, marchant à côté de lui et s'absorbant à réfléchir. Jules Brunel, un peu boursouflé et pâle, des poches sous les yeux, les cheveux autrefois bouffants et bravaches, déjà plus rares aux tempes, quelque chose d'appauvri et de gonflé à la fois, n'avait guère que sa moustache, longue et couleur de paille, que Rose eut reconnue sans hésiter. Les vêtements discordants, la chemise lilas d'un aspect sportif, la cravate brune à l'air notarial, le veston à carreaux gris sur gris et pantalon beige, le tout défraîchi mais propre, sauf une tache d'herbe récente dans le bas du pantalon, rendait l'homme difficile à classer. Avec une boucle d'or à l'oreille, il aurait passé pour un manœuvre endimanché. Avec des gants râpés pour un clerc d'étude dans la dernière des dèches. Mais sans autres attributs indicateurs, ce n'était ni un bourgeois ni un ouvrier, c'était un être hors cadre, inquiétant. « Je cherche le numéro 8 », dit-il, allongeant son cou vers les petits piliers de granit où s'inscrivait en or ou en noir le nom des villas. Le numéro 8, c'est là que reste le président du comité d'assistance pour les détenus libérés. « Je dois le voir, c'est convenable. » Jules Brunel n'était pas loin de se rengorger en pensant à ses belles relations. « C'est un deux, mais pas fier. Il est venu me voir au pénis pour me dire de ne pas m'inquiéter qu'on s'occuperait de moi et que je deviendrais un ornement de la société. Voilà le numéro 8. « Faut-il que j'entre avec toi ?» demanda Donna, saisie d'une horrible timidité. « Eh, parbleu, je tiens à te présenter. Et puis, tu entendras ce qu'on va me dire. On m'offrira une place, peut-être, suivant mes capacités. Il y a toujours des places qui nous attendent, que ce brave Aristo m'a dit. Tu saisis, des personnes qui se dévouent pour nous remettre dans le bon chemin. Ça y est, je sonne. » Un petit déclic électrique ouvrit la grille. L'allée sablée les conduisit à la porte de chêne et de fer forgé, où déjà une bonne en tablier blanc attendait. « Non, monsieur n'est pas chez lui, » répondit-elle à la question de Jules Brunel. « Qu'est-ce que c'est? Voulez-vous laisser un message ?»« Rien, » fit-il d'un air sombre, mélodramatique. « Inutile, l'occasion ne se retrouvera pas. C'est un détenu libéré qui venait le voir. » « Ah, dans ce cas, fit la bonne, stylée sur la philanthropie. Entrez par ici, madame vous verra. » Donna hésitait encore sur le seuil, mais son père le poussa devant lui et la bonne le regarda d'un œil méfiant, comme si elle le soupçonnait d'une coupable intention de fuite. Elle les introduisit dans une petite pièce qui s'ouvrait sur le carré précédant l'antichambre, dont, à travers la grande porte en vitrage, ils aperçurent les meubles sculptés et les faisceaux d'armes. Dans la chambre claire et simple où ils s'assirent, des gravures anciennes ornaient les parois. Il y avait des journaux illustrés et des brochures sur la table. « On se croirait chez le dentiste, » fit Jules Brunel avec un rire nerveux. Presque aussitôt, une dame entra, grande, imposante, affable. « Bonjour !» dit-elle d'une voix modulée, très exactement pour la circonstance, et avec une petite inflexion qui montait sur la seconde syllabe, comme une question plutôt que comme un accueil. « Vous désiriez voir mon mari? Il regrettera !» Elle approcha de ses yeux son face-à-main d'écaille, regarda Jules Brunel, puis Donna, tous les deux debout, tête nue. Mais Jules, le menton en l'air, position du soldat, les épaules effacées, le petit doigt sur la couture du pantalon, Donna, baissant le front, la mine malheureuse et gênée. « Oh, je vois !» dit la dame. « Vous amenez à mon mari un jeune délinquant !» Et le face-à-main fixa sur Donna l'éclat bienveillant de ses verres. « Non, non, il ne faut pas confondre !» dit Jules Brunel, très vexé de voir l'intérêt philanthropique de la dame prendre une fausse direction. « Ce garçon est mon fils. Il n'a pas encore subi de détention. Il n'a subi que des examens cette semaine précisément. C'est moi qui suis le détenu libéré, » ajouta-t-il d'un ton digne et ferme qui rétablissait la situation. « Oh, pardon !» murmura la dame un peu éperdue. Son mari lui avait dit une fois « Il faut un tact énorme dans ces choses. Rien que par un mot, on froisse une âme endolorie. » On détourne du bien un être qui ne demandait qu'à y rentrer. Si je suis absent, ne renvoie jamais un détenu libéré qui désire me voir. Reçois-le, parle-lui affectueusement. » Ces visites des détenus libérés étaient la terreur de sa vie. « Asseyez-vous, » dit-elle en s'asseyant elle-même. Ils s'assirent et se turent. Donat riait intérieurement d'un rire amer. Il n'était pas dépourvu d'humour et il pouvait apprécier, comme du dehors, le lamentable comique de sa position. Il sentait que son père allait l'exhiber. « Tel que vous le voyez, madame, » dit en effet Jules Brunel, « mon garçon a eu le maximum. »« Le maximum, vraiment ?» répéta-t-elle incertaine, car elle entendait souvent parler du maximum de la peine. « Le maximum des points aux examens d'État. » « Ah, c'est très beau. J'ai une nièce qui passait aussi ses examens cette semaine, » fit-elle afin de combler le fossé. « Une nièce, tu entends? Crois-tu que tu l'aies vue ?» demanda Jules pour faire entrer son fils dans la conversation. « Oh, ce n'est pas probable, » dit la dame. « Et qu'est-ce que vous pensez faire maintenant ?» s'adressant au véritable détenu libéré qu'elle craignait d'offenser de nouveau. « Mais ce qui se trouvera, madame, je ne suis pas difficile. J'étais monteur de boîtes d'or. J'ai fait de la reliure, de la menuiserie. Je pourrais mettre la main à tout. Je me suis occupé d'agriculture entre mes deux condamnations, car je suis récidiviste, » ajouta-t-il, s'efforçant de rester modeste. « Je sais que mon mari a une place de jardinier à offrir, » dit la dame en hésitant un peu. « Ça m'irait comme un gant, mon fils trouverait une école dans mon voisinage, car, naturellement, je ne me sépare plus de mon fils autant que possible. » Voulez-vous manger quelque chose ? Demanda la dame qui avait cherché une transition et qui n'en avait pas trouvé. Veux-tu manger quelque chose ? Dit Jules se tournant vers son fils avec un geste généreux et large qui offrait, qui invitait. Merci, madame, ce n'est pas de refus. J'ai cassé une croûte ce matin à 8 heures. Rien depuis. L'inquiétude de ces examens, vous concevez ? Mais Donat répondit avec obstination qu'il n'avait pas faim et il alla attendre son père dans la rue, tandis que Jules réveillonnait à la cuisine, entretenant de ses vertueuses résolutions et de la grandeur future de son fils, deux bonnes attendries. Quand il sortit, il s'essuyait la bouche du revers de la main. « Tu as eu tort, dit-il, le fromage était bon. Du fromage de la clé d'or, j'ai reconnu le goût de la noisette. » Quant au vin, ils auraient pu se fendre d'une meilleure goutte pour la circonstance. C'était du Bourgogne, mais un très petit cru, du vin au tonneau. Et puis, ils peuvent aller se faire pff, avec leur place de jardinier. Tu me vois, jardinier ? Un monteur de boîte or ? Qu'est-ce qu'on fait jusqu'à l'heure du train ? Les 3 verres de vin qu'il avait avalés coup sur coup congestionnaient un peu sa figure bouffie et lisse qui faisait penser à une peau de baudruche. Il suçait sa moustache, dont les épis gardaient un goût de Bourgogne. Il mettait ses pouces dans ses goussets en écartant les coudes. Il se carrait, hargneux, moins jovial. « Je vais à l'hôtel, je suis fatigué, » dit Donat. « Parfaitement, je t'accompagne. On causera jusqu'à 8 heures. » Mais il ne s'agirait pas de manquer le train. « Je ne rentre pas ce soir, » dit son fils, baissant la tête et les sourcils froncés. « Tu ne rentres pas ce soir, pas avec les 6 autres, mais on vous attend. Vous allez faire une épate dans l'endroit, toi surtout, avec ton maximum. »« Je ne rentre pas, » répéta Donat, dont le visage mince semblait s'être encore effilé et creusé depuis 1 heure. « Je vois ce que c'est !» cria Jules Brunel. « Ne crie pas !»« Je crierai si ça me plaît. Je crierai que tu as honte de moi. » « Tu penses bien, » fit Donat, dont les mâchoires un peu serrées, mais l'articulation très nette, « tu penses bien que je ne suis pas fier de toi. Il faut mettre les choses au point. J'ai quitté mes amis pour aller avec toi parce que tu es mon père tout de même. Je ne te renie pas. » J'ai fait cette visite où l'on m'a pris pour un jeune délinquant. Un tremblement d'ironique colère passa dans sa voix. Je t'emmène à mon hôtel. Je demanderai une chambre pour toi si tu veux. Mais je ne peux pas t'imposer à mes camarades. Je ne peux pas non plus, à l'arrivée, te présenter à leur père et à leur mère qui seront là. Je ne suis peut-être pas présentable, clama Jules Brunel outragé, tandis que son regard descendait vers le pantalon beige, puis remonter vers le veston gris. Il est bien inutile de discuter, fit Donat d'un ton las. Je ne rentre pas ce soir, c'est tout. Quel ton pour un gamin! Ah, elle réussit bien la surprise que je voulais te faire. Je serais rentré avec toi. Ça m'aurait fait plaisir. Je n'en ai pas eu tant que ça des plaisirs depuis 4 ans, poursuivit-il, s'attendrissant sur lui-même. Tu n'as pas de cœur, voilà le mal. Donat continuait à marcher sans répondre. Un poids lui écrasait les épaules, c'était comme une créature hideuse, agrippée à califourchon, et qui ne pourrait jamais secouer.